Il vient d'être 18h au studio Kalangou. Bienvenue au journal en français présenté par Ataher Rafika. Bonsoir chers auditeurs, à la une aujourd'hui 9 mai 2019, le Conseil de sécurité d'Ayoru a décidé hier de mettre l'accent sur la sécurité des ONG présentes dans la zone. Cela fait suite au vol de 2 véhicules dans le camp de réfugiés maliens de la localité. Le préfet d'Ayoru dans un instant. 0,7% est le taux de prévalence du VIH-Sida chez les personnes handicapées au Niger contre 0,4% au plan national. À suivre dans ce journal, une responsable de l'ONG Humanity Inclusion qui a mené l'enquête. Pour une autonomisation financière de la femme, de nombreux groupements féminins ont été créés dans la commune rurale de Karma par une femme. Comment fonctionne-t-il ? Réponse dans notre partie magazine de ce soir. La réunion d'hier à Ayoru du Conseil de sécurité du dit département a décidé de multiplier les patrouilles des forces de sécurité, d'escorter les missions des ONG qui auront informé au préalable les autorités locales. Cela fait suite au vol mardi de 2 véhicules au camp non sécurisé des réfugiés maliens de Tabaré-Baré dans la commune d'Ayoru. Les explications du préfet d'Ayoru, Hassan Idrissa, au micro d'Abdoulaye Amadou.
Dès qu'il nous a été signalé que 2 véhicules ont été enlevés, dont un véhicule de l'APVE et un autre de la CNE, nous nous sommes transportés sur les lieux pour constater de visu. Tout de suite, de retour, nous avons convoqué une réunion du Conseil départemental de sécurité pour examiner la situation et prendre les dispositions idoines pour que cela ne se répète plus. Nous savons qu'auparavant, il y avait la présence des forces de défense et de sécurité sur le site, mais cela fait un bon moment que ces forces ne sont plus sur les lieux. Certes, en son temps, la patrouille départementale faisait des rondes ponctuelles dans les alentours du site. Mais depuis, elle est plus fréquente aujourd'hui. Deuxièmement, nous avons dit aux ONG que pour toute sortie en dehors de la ville, l'ONG doit nous avertir afin que nous lui attribuions une escorte jusqu'à la fin de sa mission dans la zone indiquée. Et cela jusqu'au jour où cette situation d'insécurité soit éradiquée.
La situation sécuritaire au Sahel a atteint un niveau sans précédent, ont indiqué hier les hauts responsables de l'ONU au Burkina Faso, Mali et Niger dans un communiqué de presse. Plus de 150 incidents violents ont été enregistrés en avril, faisant plus de 300 morts. Et en un an, l'on compte environ 330 000 personnes déplacées internes et plus de 100 000 qui se sont réfugiées dans les pays voisins. Selon les représentants onusiens, 1800 écoles sont fermées et environ 80 centres de santé ont fermé ou partiellement opérationnels. Ils ont par ailleurs appelé à augmenter l'aide humanitaire pour des millions de personnes affectées par la propagation de la violence dans ces pays du Sahel. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à un soutien accru de l'ONU à la force multinationale anti-djihadiste G5 Sahel en exprimant dans un rapport sa profonde préoccupation devant la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans la région sahélienne. Selon une dépêche de l'AFP, Antonio Guterres estime qu'une pleine opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel ne sera disponible que si elle reçoit un soutien constant et prévisible. À cet égard, il réclame à nouveau, malgré l'opposition de longue date des États-Unis sur ce sujet, que le G5 Sahel bénéficie de ressources financières de l'ONU. Les coupures intempestives d'électricité vécues à Niamey ces dernières semaines grèvent les caisses des groupes de radios et télévisions de la capitale, car ces médias sont obligés de faire fonctionner des générateurs, d'où des dépenses supplémentaires et importantes pour l'achat de gasoil nécessaire au fonctionnement des radios et télévisions. Témoignage de Bello Oumarou, responsable technique de Canal 3 Niger, et Djadi Mahamoudou, administrateur délégué de l'agence radio et télévision Enfani, au micro de Moutari Mahamoudou.
L'impact des coupures sur la consommation d'électricité, c'est multiforme. Nous, l'énergie, quand même, c'est l'une des matières premières qui nous permet de faire notre travail. Donc, s'il n'y a pas d'énergie, tout de suite, on est coupé. Nous sommes obligés de trouver un mécanisme qui puisse nous permettre de relayer le manque de fourniture par la Nigelec. Et c'est le groupe électrogène que nous utilisons. En moyenne, si je peux estimer, en tout cas par jour, en temps de coupure, on peut aller dans les 60 à 70 000 francs de gasoil. D'ailleurs, si nous devons faire notre programme tel quel, ça doit aller dans les 100 000.
Les coupures, vraiment, ça impacte beaucoup parce que des fois, on a même une heure ou bien deux heures d'électricité de la Nigelec dans la journée, ce qui fait que le groupe consomme beaucoup de gasoil. C'est beaucoup d'argent. Par jour, au maximum, on peut consommer jusqu'à 50 voire 60 litres de gasoil. Et si on met la nuit aussi, on peut aller jusqu'à 80 litres de gasoil. Donc vous voyez, c'est beaucoup.
Les coupures intempestives du courant peuvent causer des dommages sur les appareils des clients de la Nigélienne d'électricité. Selon un défenseur des droits des consommateurs nigériens, en cas de panne d'un appareil dû à des coupures intempestives du courant, l'intéressé peut demander un dédommagement auprès de la société d'électricité. Nous, Arzika, au micro de Rukayatou Abdraman.
Lorsque vous avez un appareil déclaré au moment de signer la police d'abonnement ou même après la signature de la police d'abonnement, lorsqu'il est endommagé, vous avez le droit de prendre les références, faire un constat d'huissier quand c'est une grosse panne. Par exemple, une entreprise qui, du fait de la coupure d'électricité, il y a eu un retour qui a ébranlé l'ensemble des appareillages. Et ce constat d'huissier-là permet d'avoir une situation qu'on peut présenter dans l'assignation de la Nigelec devant le tribunal compétent. Mais avant le tribunal, ils ont même un service de contentieux au niveau de la Nigelec, où vous allez aller déclarer votre situation et on a la possibilité de transiger avec vous. Mieux, c'est bon que les gens sachent que la Nigelec elle-même, elle est assurée. Il y a un mécanisme d'assurance. S'il y a un dommage, elle transfère le dossier à son assureur et c'est à l'assureur de payer les dommages que les abonnés sont venus à subir par rapport à ça.
Les enseignants correcteurs des épreuves du baccalauréat 2017 et 2018 attendent toujours le paiement des reliquats des frais de correction. À l'approche de l'examen du baccalauréat 2019, c'est encore un flou qui entoure la question du paiement de ces arriérés qui s'élève à environ 700 millions de francs CFA, selon Moussa Adamou, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire du Niger.
Nous ne recevons de renseignements ni de la part du service du bac, ni de la part du ministère employeur, de façon que les enseignants correcteurs des examens du bac sont laissés à eux-mêmes, sans qu'on leur dise même une date probable de paiement de ces frais. Avant-hier, le ministre des enseignements supérieurs était au service des examens du bac et il a dit qu'ils vont procéder très prochainement à ce paiement-là. Et alors, sous ce vocable « très prochainement », nous avons du mal à comprendre si c'est au cours de ce mois. En tout cas, il dit avant la tenue du bac 2019. Vraiment, nous sommes dans une situation de flou où les renseignements ne nous parviennent pas malgré toutes nos demandes. C'est notre vœu d'avoir l'intégralité de désintéresser et le bac 2017 et le bac 2018 avant le prochain bac. Mais si d'aventure l'État se permet de faire comme la dernière fois, il y a des problèmes qui risquent d'entamer la bonne marche des examens à venir. Imaginez quelqu'un qui a un arrêté de 2017. Ensuite, elle a eu un autre arrêté en 2018. Quel est le courage qu'il aura pour participer à un bac 2019?
Propos recueillis par Assoumana China. Le taux de prévalence du VIH-Sida chez les personnes handicapées au Niger est de 0,7%, près du double du taux national. C'est ce qui ressort de l'étude effectuée sur un échantillon de plus de 800 personnes et initiée par l'ONG Humanity Inclusion en collaboration avec la Fédération des personnes handicapées. Des précisions avec Hanna Touseibou de Humanity Inclusion, interrogée par Moussa Hassan.
On a constaté que les stratégies longtemps développées dans le pays ciblaient surtout les professionnels du sexe, les réfugiés, les mineurs au pair et autres. Les personnes handicapées n'ont jamais été prises en compte. L'ONG Humanité Inclusion, en collaboration avec ses partenaires, a réalisé cette étude nationale. Elle a ciblé, par choix raisonné, Niamey, Tawa et Zender. On a utilisé une enquête comportementale et une enquête biologique, le test de dépistage. Les résultats ont montré une prévalence presque double du VIH chez les personnes handicapées par rapport à la prévalence nationale, 0,7 contre 0,4 sur le plan national. Et l'enquête qualitative a montré, entre autres, une faible connaissance des modes de transmission, de l'utilisation de préservatifs, un problème d'accessibilité d'abord physique aux infrastructures sanitaires, l'accessibilité communicationnelle. Les personnes ayant des incapacités auditives et visuelles sont exclues des messages de sensibilisation. Et enfin, une accessibilité financière liée à la prise en charge médicale.
Pour le secrétaire général de la Fédération nationale des personnes handicapées, les résultats de cette enquête sur la prévalence du VIH chez les personnes en situation de handicap sont inquiétants. C'est pourquoi sa fédération s'engage à plaider auprès de l'État et de ses partenaires pour protéger cette frange de la population déjà vulnérable. Danfiroun Munkaila au micro de Moussa Hassan.
La première action, c'est le plaidoyer à l'endroit de l'État pour que, à partir de ces données-là, l'État puisse, dans le cadre des différentes communications de riposte contre le VIH-SIDA, tenir compte des personnes handicapées. Au niveau des partenaires, pour qu'ils puissent accompagner les séances de sensibilisation que nous allons mener pour que ces personnes handicapées puissent comprendre la nécessité d'accepter de se dépister et, dans le cas avéré, accepter le statut afin de faciliter la prise en charge. Dorénavant, aucune action ne doit être menée sans les interprètes en langue de signes qui vont faciliter l'accès de ces communications-là à l'endroit des personnes en incapacité auditive. En ce qui concerne les personnes en incapacité visuelle, c'est de tenir compte des brailles qui vont leur faciliter de lire toute communication lors des passages télévisés et ils peuvent facilement comprendre quel est le message qui est en train de passer.
La deuxième édition de la Coupe de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de football d'âme UFOA Zone B a démarré hier mercredi à Abidjan en Côte d'Ivoire. 8 pays, dont le Niger, participent à ce tournoi qui durera 10 jours. Dès l'ouverture, la Côte d'Ivoire, pays hôte, a écrasé le Togo 5-0. Aujourd'hui, les Nigériennes affrontent les Maliennes, deux équipes logées dans la poule B de ce tournoi de football d'âme d'Afrique de l'Ouest. Pour l'autonomisation de la femme, Fatih Haouji, promotrice de groupements féminins, a créé de nombreux autres groupes dans le village de Karma, du nom de la commune rurale. Son objectif est de donner l'opportunité à la femme rurale d'être plus autonome en gérant son bien comme elle l'entend. Pour plus d'explications, écoutons Fatih Haouji dans un entretien avec Balkis Tahirou. C'est dans la partie magazine de ce soir.
Fatih Haouji est initiatrice de groupement pour l'autonomisation économique des femmes. Elle a créé plusieurs associations dans la commune de Karma, dont le but de sensibiliser les femmes rurales sur la gestion de leurs biens. Elle nous explique la démarche de ses activités.
Si tu veux faire un travail, même dans ta propre maison, tu dois le faire soigneusement. Donc l'association doit être bien organisée. Ce sont des personnes qui ont les mêmes objectifs et se font confiance qui doivent se regrouper pour que ça marche. Dans la commune de Karma, j'ai initié 23 associations et il reste encore d'autres femmes à organiser.
Comment et dans quelles conditions avez-vous créé ces associations de femmes ici à Karma?
Toutes ces associations ont reçu des formations de MMD Mata Masudubara grâce à l'ONG Initiative pour la sécurisation des conditions de vie, ISCV, reliée à CARE International. C'est l'ONG ISCV qui crée les associations. Ensuite, les bailleurs de fonds viennent s'inquiéter des besoins de l'association afin de financer les volets qui les intéressent.
Quelles sont les activités que font ces femmes au sein de l'association?
Il y a des associations qui veulent faire de l'embauche et il se trouve que CAR a un partenaire qui préfère donner des animaux. Ou encore celles qui veulent apprendre la fabrication du savon. Pourquoi ne pas les chercher un partenaire qui intervient dans le domaine. Nous qui avions initié ces associations engageons des agents instruits de la commune qui iront renforcer leurs capacités pour mieux former ces femmes dans la vie associative, la gestion de leur économie et autres. Mon plus grand appel est que les femmes restent unies. Et toute personne qui implante une association n'a pas le droit d'être membre de cette association. Elle n'a pas le droit d'emprunter de l'argent auprès de l'association et un agent d'ONG ou projet aussi n'a pas le droit de prendre leur argent pour chercher un crédit auprès d'une banque. Qu'elle soit tranquille.
Le studio Kalangou informe les auditeurs des radios partenaires que les interruptions constatées lors des diffusions des programmes de studio Kalangou sont dues à des perturbations du signal chez le fournisseur depuis l'Europe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme du studio Kalangou continue avec Soumana Amadou pour la présentation du forum sur les conflits intercommunautaires, prévention et règlement des litiges dans le Boboy, région de Dosso. Forum réalisé en Fulfulde à la radio Marhaba de Birnin Gaouré. Bonne réception.